président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, c'est dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le teint. La race, je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuve. La race, ben, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La race, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La race, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maribin. J'étais blessé chez mon voisin. La race, mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'un âne avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance. Il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience. Aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La race, Cartune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse ou de la preuve. La race. La race.
Chers auditeurs de La Rage Dedans, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Michel Perra. Michel, bonjour.
Bonjour.
Alors Michel, tu nous emmènes en Bolivie.
Je vous emmène en Bolivie.
D'accord, mais avant d'aller en Bolivie, présente-toi, ton parcours et jusqu'à la création de Horizon 19, qui est ton association.
D'accord. Donc moi, je suis fils de paysan et plus précisément d'ouvrier agricole. Donc j'ai toute mon enfance, donc j'ai vu mes parents travailler sur une petite ferme d'une trentaine d'hectares où il y avait un patron, mais mon père était ami du patron, et j'ai vu donc mes parents travailler durement sur une ferme de polyculture. Et si je peux me permettre une petite observation, quand je regarde les choses avec recul, certes mes parents étaient relativement pauvres, il manquait toujours de l'argent à la maison, mais j'ai une image de mes parents plutôt heureux. Et si je regarde aujourd'hui la situation donc d'un agriculteur qui a fonctionné dans le système productiviste, si je lui demande aujourd'hui, celui qui a 150 hectares, 200 hectares, 3 tracteurs, une moissonneuse-batteuse, est-ce que vous êtes heureux ? Mariama, je ne suis pas sûr qu'il me réponde oui.
Oui. Alors, Horizon, tu as travaillé pour Terre des Hommes.
Pour Frères des Hommes.
Frères des Hommes, pardon. Et tu as parcouru le monde. Tu m'as expliqué que tu as travaillé, y compris sur mon continent d'origine, l'Afrique.
Oui.
Voilà. Donc, la solidarité, tu connais.
Oui, absolument.
Mais tu t'es attaché particulièrement à un pays, la Bolivie. Pourquoi ?
Alors, il faut commencer donc par mon premier engagement en tant que volontaire donc d'une ONG française, donc qui s'appelait Frères des Hommes, qui existe toujours.
Oui.
Et j'ai travaillé en tant que volontaire en Équateur pendant 3 ans, avec la petite paysannerie aussi quechua, des Andes, cette fois équatorienne. Et quand je suis rentré de l'Équateur, donc, j'étais permanent donc, au siège de Frères des Hommes, et j'ai eu la chance, on peut dire ça comme ça, de suivre donc, des sessions de formation à l'INODEP. Mmh. L'INODEP, qui n'existe plus, a été fondée par Paulo Freire, donc ce pédagogue brésilien qui avait dû fuir son pays en 1964.
Après le coup d'État militaire.
Après le coup d'État militaire. et qui est venu donc fonder deux instituts en Europe, donc l'INODEP à Paris et l'IDAC à Genève. Et à Paris, j'ai eu la chance donc de suivre plusieurs semaines de formation dans le, sur le concept de conscientisation, sur le concept d'éducation populaire et sur le concept aussi d'enquête conscientisante. Et je peux dire que ça a été quelque chose d'assez déterminant pour moi. Et Frères des Hommes m'a demandé donc de repartir en Bolivie à cette époque, donc c'était en 1977, pour démarrer un projet en milieu rural. Et c'était donc un projet d'éducation populaire en milieu rural.
D'accord. Alors, la Bolivie, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pour en faire la raison de ton existence encore à l'heure actuelle,
oui,
au point de fonder une association qui s'appelle Horizon 19, dont je donne l'adresse du site internet pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient aller regarder, c'est Horizon 19, horizon au pluriel 19.com. Voilà. Alors, la Bolivie, il faudrait présenter la Bolivie à nos auditeurs.
Alors, donc, je suis allé en Bolivie donc en 1977, dans un contexte politique, je dirais, épouvantable. Et nous avons donc démarré un projet d'éducation populaire, ce qui était donc, je dirais...
une gageure.
Oui, c'est pas toujours évident vis-à-vis des différents coups d'État, parce que pendant mes trois années en Bolivie, j'ai connu, nous avons connu avec mon épouse, sept présidents de la République, dont deux coups d'État militaires qui ont été très méchants. Et notamment celui du général García Mesa, je me souviens très bien, j'ai même des enregistrements encore... où il y a eu quand même à peu près 3000 Boliviens qui ont été assassinés. Mmh. Ouais. Dont dans un dirigeant syndicaliste que j'ai eu l'occasion d'accompagner donc à l'hôpital Bichat parce qu'il avait reçu une balle dans la moelle épinière, Genaro Flores, et qui s'est retrouvé donc handicapé suite donc à ce coup d'état militaire du général Mesa. Donc, l'avantage que nous avions donc à cette époque, c'était que nous étions à 5 heures de la ville la plus proche. Et à cette époque, en milieu rural, il n'y avait pas d'État bolivien. La mairie, c'était 3 ou 4 personnes. Il y avait un centre de santé pour 30 000 habitants. L'État n'existait pas. Et nous pouvions travailler, faire à peu près ce que nous voulions, malgré les coups d'État, malgré donc parfois des régimes qui pouvaient nous suspecter de faire des choses qui ne leur convenaient pas.
D'accord.
Et donc, dans ce projet d'éducation populaire, ce qui a été, je ne vais pas tout raconter, mais ce qui a été significatif pour moi, dans un contexte donc politique très particulier, où existait, quand nous sommes arrivés en Bolivie, le pacte militaire-paysan, qui s'était installé sous le général Barrientos, tout était ficelé. Les paysans ne pouvaient pas bouger. Et ils rêvaient donc à nouveau de s'émanciper à travers la Confédération paysanne, qui à cette époque a émergé grâce au travail d'ailleurs d'éducation populaire que nous faisions nous, mais aussi beaucoup d'ONG boliviennes. Et ça, c'est un travail souterrain qui a duré une trentaine d'années et qui a permis... Si on regarde aujourd'hui, peut-être qu'on ne peut pas trop s'en réjouir, mais en tout cas qui a permis quand même l'arrivée d'Evo Morales au pouvoir.
Alors pour la première fois, une personne d'origine autre que la caste politique venait au pouvoir.
Et ça, première fois.
Pour la première fois dans l'histoire de la Bolivie.
Absolument.
Ça, il faut le souligner.
Ah, il faut le souligner. C'est historique. C'est un moment historique pour la Bolivie.
Tout à fait. Oui. Alors la Bolivie, c'est 200 ans de coup d'État.
À peu près.
Voilà.
C'est une histoire terrible.
Tout à fait. Alors, donc, en 2012, après ta retraite, tu décides d'aller t'installer en Bolivie et de faire ce qu'on appelle une solidarité avec la petite paysannerie.
Ouais.
Pourquoi ?
Donc, j'ai été très marqué par ces trois années donc, de volontariat en Bolivie sur un travail donc, d'éducation populaire. Moi, je suis... Je peux l'affirmer, donc un militant de l'éducation populaire, mais dans le sens où Paulo Freire l'entendait. Hein. Donc je ne vais pas expliquer, mais tout au long de l'interview, j'aurai l'occasion d'en parler.
Tout à fait.
qu'est-ce que ça veut dire faire de l'éducation populaire en milieu paysan, c'est pas rien. Mmh. Et donc j'avais été très marqué, notamment avec cette mobilisation paysanne que j'ai vue donc naître et que j'ai vue donc aboutir avec la Confédération paysanne qui a amené donc Evo Morales au pouvoir. Et pour moi, ça, c'était quand même une réussite, même si nous n'avions pas fait que ce travail-là, que ce travail syndical. Il y avait un travail aussi qui avait été fait au niveau santé, au niveau agricole, au niveau du coopérativisme aussi. Mais ça, disons que c'était la chose la plus significative, cette mobilisation paysanne pour cette émancipation, pour faire naître leur syndicat paysan qui, lorsqu'il y a eu un vote démocratique, a permis l'arrivée de Evo Morales au pouvoir.
Voilà. Alors, ce que tu dis bien dans une vidéo qui est sur YouTube, dont je vais donner l'adresse, c'est que 500 millions de propriétés agricoles sont de la petite paysannerie. Elles nourrissent à peu près 60 à 70% de la population mondiale sur un quart des surfaces agricoles.
Oui.
Donc, être solidaire avec la petite paysannerie, c'est être solidaire avec l'humanité.
Absolument. Alors, n'oublions pas que dans cette planète où il y a une urbanisation extrême, qui est pour moi une des plus grosses sottises qu'a pu faire donc
l'humanité,
l'humanité de concentrer donc les gens dans les villes, et ces gens, il faut qu'ils mangent.
Tout à fait.
Et qui donne aujourd'hui, si on regarde sur le plan planétaire, je ne parle pas de la France, mais si on regarde les choses sur le plan planétaire, c'est cette petite paysannerie qui nourrit, c'est ce que disent les statistiques, environ encore 60% donc de l'humanité. Et si on, le système capitaliste les fait disparaître, il y a un véritable danger. Parce que avec cette petite paysannerie, Mariama, on travaille encore sur des terres saines.
Oui.
Qui dit terre saine,
sans,
dit...
Sans pesticides.
Sans pesticides. Hein,
voilà.
Dit alimentation saine.
Tout à fait.
Et ça, c'est fondamental. Alors que tu sais très bien, comme moi, ce que a produit, ce que tu es en train de produire, le productivisme.
Tout à
que,
fait.
Que moi, j'ai découvert aussi. J'ai même été formaté par, par l'école du productivisme dans les années 70.
Mais tous les problèmes modernes de cancer, de pesticides, de mortalité, d'endettement des paysans et surtout de suicide.
Oui. Alors, donc évidemment, tout ça, ça me touche profondément. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé donc dans ces années donc 70-80, où on a mis l'accent donc sur le progrès, le divin progrès,
oui,
du toujours plus, plus d'engrais, plus de pesticides, plus de fongicides, plus de tracteurs, plus de matériel agricole, et aussi, Mariama, plus d'endettement.
Tout à fait.
Ça, il ne faut pas oublier de le dire. Mmh. Et qui s'est enrichi avec ce système-là ?
Les multinationales.
Les fabricants de matériel agricole, Monsanto, puisque c'est Monsanto donc, qui
Bayer.
Fournit. Bayer, hein, qui fournit. Hein. Et ce qui est grave aujourd'hui, c'est, quand même, c'est que les scientifiques reconnaissent que cette nourriture à base d'engrais, de pesticides et de fongicides, a des effets sur notre santé.
Oui.
Alors, évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais d'abord, beaucoup d'agriculteurs sont morts.
Utilisant les pesticides.
Absolument. Et il y a quand même un agriculteur qui s'est rendu célèbre, François, Paul François, qui a entamé un procès contre Monsanto. Et qu'il a gagné. Et combien d'agriculteurs qui n'ont pas pris de précautions suffisantes dans l'utilisation des pesticides et fongicides sont morts sont malades et ont des cancers.
Tout à fait.
Ouais. Et aujourd'hui, la population, c'est indéniable. Bon, ça dépend si on mange beaucoup de produits de l'agriculture chimique, mais avec le temps, ça a des répercussions sur notre santé. Notre consommation, Mariama, de médicaments sur les 40 dernières années, elle est exponentielle, exponentielle. Dans une société, Mariama, dans une société où la plupart des gens mangent à leur faim, ont un minimum de confort.
Tout à fait.
Il y a un minimum d'hygiène.
Oui.
C'est quand même contradictoire d'aller consommer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de médicaments. Au bénéfice de qui ?
Des multinationales.
Des multinationales.
Tout à fait.
Et ça, c'est... Alors, bien sûr, l'espérance de vie, beaucoup de gens nous diront « Ah, mais oui, mais c'est les vieux qui consomment les médicaments. » C'est vrai que l'espérance de vie a considérablement augmenté en France. Mais à quel coût ? Et est-ce qu'on peut considérer que les gens, aujourd'hui, sont en bonne santé ? En France, non. Beaucoup de gens ne sont pas en bonne santé puisqu'ils consomment des médicaments. Donc, on a un système de santé, là aussi, sur lequel on est sur la mauvaise voie. Et personne n'en parle.
Tout à fait. Alors, revenons à la petite paysannerie. Le système productiviste l'a fait disparaître. Et les petits paysans sont poussés vers les villes. Et vers les bidonvilles, en fait.
Absolument.
Et donc, tous les problèmes des grandes villes et de l'urbanisation excessive, du sans-abrisme, de tous les problèmes qu'on a dans les grandes villes, sont issus du fait que la petite paysannerie est traquée, elle est appauvrie, et elle disparaît petit à petit.
Absolument, absolument. Et il y a aussi ce mirage de la ville.
Hein. Oui.
Malheureux. Comme il y a le mirage de l'Europe aujourd'hui. Hein.
Tout à fait.
Tous ces migrants qui viennent, mais c'est... Il y a bien sûr
des causes
politiques, etc., de misère, mais il y a ce mirage de notre société moderne. Et c'est vraiment catastrophique pour la planète et pour l'humanité.
Alors, en 52-54, en Bolivie, il y a la réforme agraire.
Oui, il y a une révolution.
Voilà. Oui. Donc, les terres, c'est à peu près, j'ai écouté c'est 1 à 3 hectares par famille, voilà, qui leur sont donnés.
Alors, c'est vrai, donc, sous la révolution, donc, parce que ça s'appelle comme ça, la révolution de 52-54, il y a eu une réforme agraire qui s'est faite et qui a redistribué donc les terres des grands latifondistes. Mm-hmm. C'est pour ça que pendant des années et des années, on n'a plus entendu les paysans qui avaient cette revendication principale d'avoir de la terre. Mais c'est ce qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui, en Bolivie, le minifundio, c'est-à-dire des petites propriétés entre 1, 2, 3 hectares. Voilà. Alors, c'est une économie donc d'autosubsistance. Donc, globalement, le paysan consomme à peu près 60%, 70%, ça dépend des familles, de ce qu'il produit, et va vendre le surplus sur le marché.
Tout à fait.
Donc c'est une économie d'autosubsistance, mais qui est quand même mise à mal par le système capitaliste.
Et par les aléas climatiques.
Et par les aléas climatiques, bien sûr. Merci de me le
rappeler. Oui, hélas. Ouais. Il y a beaucoup d'aléas climatiques. Alors, ce qui a aussi eu lieu lorsque Morales a pris le pouvoir, c'est qu'il a nationalisé les multinationales. Donc il y a eu une redistribution, dans un premier temps, de richesses vers les plus pauvres.
Absolument. Mais et ça, c'est aussi historique.
Voilà, c'était historique.
Parce que donc, sous Evo Morales, il y a eu donc une nationalisation donc des multinationales. C'est-à-dire que avant, les multinationales récupéraient pratiquement 70% des bénéfices. Là, ça s'est inversé. L'inconvénient de ces entreprises qui sont passées entre les mains de l'État, si au début, effectivement, Evo Morales a pu redistribuer des richesses, et ça, il faut lui reconnaître. Et c'est la première fois que ces richesses ont pu être distribuées au niveau des municipalités. C'est la première fois dans l'histoire donc, de la Bolivie que les municipalités ont pu avoir un budget pour travailler dans le domaine de la santé, dans le domaine
de l'éducation, des infrastructures et tout le reste.
Oui, l'éducation très peu, mais surtout des infrastructures. Hein. Et ça, il faut quand même le reconnaître, même si aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe,
bon. C'est moins agréable.
Oui, c'est moins agréable.
Alors, au niveau de l'éducation, parce que tu insistes sur le fait que tu es un militant de l'éducation populaire. Dans ta vidéo, tu dis qu'un tiers à peu près des personnes en Bolivie, des petits paysans, sont analphabètes et beaucoup sont illettrés.
Oui. Bien que Evo Morales dit que quand il est arrivé au pouvoir, il y a eu une alphabétisation qui s'est faite. Mais moi qui vis sur le terrain au contact des paysans, je peux te dire que 30% à peu près ne sait pas lire et écrire. Et ils sont obligés, donc, avec leur pouce, de signer, donc avec de langue. Et je dirais que 90% sont illettrés. Moi qui assiste donc aux réunions des communautés, pour eux c'est une véritable difficulté de faire un compte-rendu de réunion. Ils sont obligés de demander au prof ou à un jeune qui est allé à l'école, qui est allé au collège...
De faire le compte-rendu.
De faire le compte-rendu.
Tout à fait. Mmh. Alors, ceci n'empêche pas l'organisation de la communauté. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs comment est organisée la communauté ?
Alors, peut-être, Mariama, ce qui est... Je voudrais essayer d'être très synthétique,
oui.
Mais de faire donc un petit état du contexte dans lequel on travaille.
Oui.
Alors, sur le plan humain, moi, quand j'ai travaillé donc avec les paysans, donc dans une province qui s'appelle Norcinti, il y a 40 ans, 50 ans, nous avions affaire à des paysans qui étaient très éloignés de la ville. Et nous avions affaire à des paysans foncièrement honnêtes, qui faisaient vivre donc les valeurs de la civilisation inca, c'est-à-dire l'aïni, la binka, c'est-à-dire l'entraide. Quand un paysan faisait sa maison, tous ses voisins étaient là.
Mmh.
Quand on faisait une réunion, les paysans venaient sans problème. Aujourd'hui, Myriam, cela, bon, je suis très rapide, mais les mentalités paysannes ont considérablement changé. Aujourd'hui, la communauté qui se réunit sous la contrainte de l'amende.
Ah, d'accord.
Par exemple.
Ouais.
Malheureusement, l'honnêteté n'est plus celle que j'ai connue, moi, il y a 40 ans.
Parce que l'argent est arrivé. Ouais.
La valeur de l'argent, mais c'est terrible, elle pénètre les mentalités, j'ai eu l'occasion d'en parler.
Oui.
Donc, un contexte humain beaucoup plus compliqué qu'il y a 40 ans.
D'accord.
C'est pour ça que je garde, moi, un souvenir fort de ces trois années. C'était trois années extraordinaires, avec des gens vraiment adorables, avec qui c'était facile de travailler. Sur le plan économique, donc on a affaire donc au minifundio.
Oui.
Mais, en même temps, il y a la société de consommation. Et le paysan, et on ne peut pas lui en vouloir, est aussi attiré par cette société de consommation, donc par l'argent. Et donc, il va aller travailler en Argentine, pas en ce moment avec Milei, parce que le change est très mauvais, mais ils vont au Chili, ils vont au Brésil, ils migrent, ils s'en vont. Ils sont à la recherche d'argent pour s'acheter le portable, pour s'acheter donc des biens de consommation. Donc, les paysans rentrent dans cette société de consommation et raisonnent de plus en plus en termes d'argent. Ce qui les motive aujourd'hui, je me fais de l'argent.
Ah oui.
Comment je me fais de l'argent ?
C'est plus les préceptes de la Pachamama.
C'est très bien dit, Myriam. Ce n'est plus les préceptes de la Pachamama. Hein. Et l'intérêt personnel, individuel, prime sur l'intérêt collectif.
Hein. D'accord.
Et sur le plan santé, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, mais le système de santé, c'est le même que chez nous. Le gouvernement bolivien prend la même voie que le système de chez nous. On forme des médecins, donc on crée des hôpitaux, on crée des centres de santé. On peut dire, ah ouais, super. Non, c'est pas super. Parce qu'on rentre dans ce système où il faut aller acheter des médicaments de chez Bayer. J'aurai l'occasion tout à l'heure d'expliquer qu'il y a un autre chemin par rapport à la santé. Sur le plan culturel, Myriam, ce qui est terrifiant aujourd'hui, c'est que la plupart des paysans ont une idée négative de leur identité, de leur culture, de leur histoire. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Et l'organisation paysanne, aujourd'hui, malheureusement, elle fonctionne sur les pas du gouvernement actuel. C'est-à-dire, il n'y a plus cette indépendance d'esprit que moi j'ai connue donc il y a 40 ans, avec cette donc autonomie et cette recherche d'une voie propre. Aujourd'hui, on avance sur les pas du MAS, donc du mouvement au socialisme. Et le mouvement paysan a perdu, à mon sens, de son autonomie politique.
Alors, le mouvement paysan est l'héritier des Incas. Et les Incas avaient une culture anticapitaliste. Elle était très communautaire, très... Il y avait des règles que tu as bien définies dans ta vidéo, qui sont celles du buen vivir. Ouais. Voilà. Donc tu as l'impression qu'elles sont en perte... Non, elles sont quand même pas toutes en perte de vitesse à ce point-là. Si.
Elles sont en perte de vitesse, mais ça existe encore.
Ah bon, ça existe, on est rassuré.
Oui. Bon. En Bolivie, bon, il y a par exemple sur le plan culturel, je pense, il y a une richesse culturelle qui est indéniable en Bolivie, oui, et qui est l'héritage justement de cette période incaïque.
Voilà.
Hein, ça, c'est l'indéniable. Hein. Mm. Et donc, il y a plein de choses encore qui sont encore là. Tout dépend, je dirais, de la proximité des villes. Plus on s'en va donc loin des villes, et plus il y a quelque chose d'authentique
qui reste,
qui reste
préservé.
Préservé.
D'accord. Donc, le buen vivir, tu le montres bien dans ta vidéo, qui dure 80 minutes à peu près. En quelques mots, comment tu le définirais pour mes auditeurs?
Alors. Je vais essayer d'être synthétique.
Voilà.
Bon, je vais d'abord te dire, Myriama, comment j'ai découvert donc le buen vivir.
Oui, c'est par un livre.
Oui, exactement.
Si j'ai bien retenu.
Quand nous avons décidé, donc avec mon épouse, de travailler à nouveau, d'être solidaires avec les paysans quechua des Andes boliviennes, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller dans les librairies à La Paz. Mmh. Et à La Paz, j'ai découvert donc ce livre qui s'appelle « Le buen vivir »,« Le vivre bien », de Fernando Buenacuni. Et pour moi, ça a été une véritable découverte, et j'ai adhéré tout de suite à ces préceptes, à ce concept du buen vivir. Et chose importante, Myriam, une chose que je ne savais pas avant de partir, c'est un concept donc qui est inscrit dans la nouvelle constitution de l'État plurinational de Bolivie. Donc, sous Evo Morales, il y a eu donc une consultation populaire et on a mis le concept du bien-vivre dans la nouvelle constitution bolivienne. Alors, pour répondre à ta question, en quoi ça consiste? Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs interprétations du buen vivir. Il y a des gens qui sont plus culturels et qui veulent revenir sur le passé.
Les Incas,
etc.
Tout à fait.
Moi, je vais donner la mienne, ma vision qui s'appuie donc sur le livre de Fernando Buenacuni, mais aussi sur le livre de David Choquehuanca, donc qui est aujourd'hui vice-président de la Bolivie. Alors, on va regarder pas à pas. Voilà. Notamment donc sur le plan humain.
Oui.
Quand je fais, moi, une animation donc, sur le buen vivir au plan humain, je fais réfléchir les paysans selon la pédagogie de Paolo Freire, la pédagogie de la question. Je demande aux paysans, à votre avis, quels sont les comportements qui viennent semer la zizanie, qui viennent semer le ressentiment, qui viennent semer la division, qui viennent semer les conflits, qui viennent semer les échecs personnels et collectifs. J'ai animé beaucoup d'ateliers sur le buen vivir. Je les ai tous notés, les comportements. On en a recensé plus de 67 comportements donc, qui viennent pourrir la vie des paysans. Et ce qui est le plus grave, faire qu'il y a des échecs personnels et collectifs.
Voilà. Ouais.
Et donc, à l'inverse, quels sont les comportements
positifs,
qui viennent au contraire semer l'union, l'entente,
L'entraide,
le respect, etc. C'est important de basculer sur le positif. Et je fais beaucoup réfléchir aussi sur les valeurs. Quand je demande aux paysans, qu'est-ce que c'est que les valeurs? Ils ne savent pas. Que ce soit toi, que ce soit moi, nous fonctionnons tous les jours, que nous en ayons conscience ou pas, selon nos valeurs, négatives ou positives. Tout ce que je fais, je le fais au nom de valeur. Et alors, pour que les paysans comprennent, je prends des exemples de la vie quotidienne des paysans. Vous voyez, il se passe ça, quelle est la valeur qui est en jeu? Je prends un exemple pour que les auditeurs aussi entendent. je me promène sur le bord d'un champ d'un paysan. Le paysan vient avec des pêches. Il m'en fait cadeau. Quelle est la valeur qui est en jeu? Quelle est la valeur qui est en jeu?
Surtout s'il nous donne les meilleures pêches de son champ.
Et en plus, il nous donne les meilleures pêches.
Voilà.
Et là, les paysans comprennent. Okay. Ils comprennent. Mmh. Hein. Et je prends comme ça plein d'exemples. On ne va pas le faire maintenant. Là, mais non, plein d'exemples de la vie quotidienne. Et là, les paysans commencent à comprendre ce que c'est que les valeurs. Ce que c'est que les valeurs. Alors, ce n'est pas facile, je dirais, de traduire dans les actes toutes ces valeurs positives. Hein. Ce n'est pas évident. Nous, nous avons nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Mais la Bolivie aussi, elle est sienne. Mais au quotidien, ce n'est pas évident pour les paysans d'être cohérent, donc, j'irai avec eux-mêmes, quand on dit, ah, mais moi, ce qui est important pour moi, c'est la liberté, ou ce qui est important pour moi, c'est le respect, ou ce qui est important pour moi, c'est l'honnêteté. Pas toujours évident d'être cohérent avec soi-même. Hein. Une chose aussi qui est importante, Myriam, sur le plan humain, c'est l'estime de soi. Il ne faut pas oublier que ce sont donc des siècles, les paysans quechua ont vécu des siècles d'humiliation, de discrimination. On les a toujours traités comme des moins que rien. Je me permets de prendre un exemple. Il y a un grave problème d'alcoolisme. Pourquoi il y a ce grave problème d'alcoolisme chez les paysans? Quand les Espagnols étaient là, bien sûr, ils exploitaient les Indiens. Et au lieu de les rémunérer, ils leur donnaient de l'alcool. Et ça, c'est inscrit dans... Moi, j'ai travaillé là-dessus, le transgénérationnel, c'est quelque chose d'important, qui se transmet même si on n'en a pas conscience.
D'accord. Hein.
Donc, l'estime de soi, elle est très basse chez les paysans. Et ça, c'est une entrave, c'est une véritable entrave à l'émancipation des paysans. Et nous travaillons sur l'estime de soi. Par exemple, moi, je m'interdis toute critique à l'égard des paysans. Toute critique. Parce qu'ils sont extrêmement susceptibles. Plus on a une estime de soi qui est basse, plus on est susceptible. Et ça vient renforcer justement cette oppression, cette discrimination, cette humiliation de la part du dominateur. Mmh. Et faire en sorte donc que quand les paysans entreprennent quelque chose, qu'ils réussissent. Pour retrouver de la confiance en soi. Quelque chose aussi qui rehausse l'estime de soi, c'est de leur demander de faire des discours. Par exemple, quand j'anime un atelier sur le buen vivir, on fait des concours de discours. Et les paysans, même les plus timides, même les femmes qui ont le plus de mal, des fois, à s'exprimer devant les hommes, se lèvent et disent quelques mots, et reçoivent des applaudissements. Et ça, ça rehausse l'estime de soi, ça rehausse la confiance en soi. Quelque chose donc de très important, parce que finalement, le travail au plan humain, c'est un travail aussi d'ordre psychologique. Je ne vais pas rentrer là dans le détail, mais tout ça, c'est important, ce travail. Alors, pour compléter sur le buen vivir, parce que je sais que tu m'as demandé d'être synthétique,
oui.
Alors, sur le plan économique, ben je fais réfléchir les paysans. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ils savent, ils ont conscience de ce qui se passe avec le capitalisme. Et avec le buen vivir, qu'est-ce qu'on fait avec le buen vivir? C'est quoi le buen vivir pour vous? Des jardins potagers, écologiques bien sûr. Quand on est arrivé en Bolivie en 2012 avec mon épouse, donc une fois qu'on a eu pris notre retraite, dans la communauté de Morado Casa, il y avait un jardin potager. Et le jardin potager, c'est quelque chose de très important. Parce que on a des légumes sains, on change nos habitudes alimentaires, et on sait que la santé dépend aussi de ce que je mange.
Tout à fait.
Hein? Donc, très important. C'est quoi encore le buen vivir? Sur le marché de Tarabuco, Monsanto est là. Entre guillemets, évidemment.
Ah oui.
Mais il y a des paysans qui achètent de l'urée, il y a des paysans qui achètent des pesticides, il y a des paysans qui achètent des fongicides. Donc l'agroécologie, on a fait des formations dans le domaine de l'agroécologie. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce qui est important encore au plan économique sur le buen vivir? La création de micro-entreprises, des paysans qui entreprennent je sais pas, par exemple, d'avoir quelques machines pour créer un petit atelier de couture et de pouvoir vendre sur le marché. Donc, c'est cette dynamique de créer, par exemple, une transformation de pêche pour faire de la confiture, pour faire des conserves. Il y a eu, donc, l'AOPEP, l'association donc, bolivienne des producteurs écologiques, qui est venue faire une formation pour la transformation des produits agricoles et proposer directement aux consommateurs. Alors, en parole, ça peut paraître facile, Myriam, mais je peux te dire que pour concrétiser ça, c'est compliqué. Sur le plan santé, pour avancer, parce que le temps passe vite, sur le plan santé, je t'ai expliqué ce qui se passe donc, dans notre système capitaliste, le modèle de santé que nous avons pratiquement dans tout le monde.
Oui.
Qui pour moi, et je l'ai lu dans, chez Fernando Bonacconi, un très, très mauvais chemin. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, ce sont les multinationales qui s'enrichissent, et les gens sont de plus en plus malades.
Tout à fait.
Globalement. Donc, il y a un autre chemin, et qui est le chemin donc, des fameux Kalawayas. Les Kalawayas, les médecins Inca, qui eux, soignaient donc par les plantes, par la médecine traditionnelle, avec des rituels qui allaient avec. Et moi, je ne suis pas contre les rituels, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le rituel, c'est aussi quelque chose d'important. Mais en tout cas, nous, dans le centre de formation, on fait des formations donc à la médecine traditionnelle. Et il y a maintenant un laboratoire où il y a quelques femmes donc qui vont chercher des plantes dans les montagnes. Ça ne coûte rien, Mariama. Ça ne coûte rien. Et qui transforment ces plantes en médecine traditionnelle et qui vont proposer donc sur les marchés
une médecine alternative.
Exactement, une médecine alternative. Alors, je ne dis pas qu'il faut supprimer l'autre médecine.
Non,
j'ai jamais dit
bon.
Ça.
Il faut proposer autre chose.
Voilà.
Comme ça, on fait son choix.
Mais en tout cas, on va limiter la consommation de médecine chimique et de médecine Bayer. Hein.
Voilà. Bah,
parce que les paysans vont arriver quand même à prévenir les maladies, à soigner un certain nombre de maux simples, quoi, avec cette médecine par les plantes. Donc, c'est une façon de se maintenir aussi en bonne santé. Et on est dans la culture. On est donc dans la culture quechua, puisque ça fait partie de la culture. Et ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher.
On va faire une pause, Michel, oui. Et on va revenir sur la formation humaine, puisque oui. Tu as commencé à l'aborder.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia todo, cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas.
Chers auditeurs de La Rage de Dor, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Michel Perra sur la Bolivie et sur la solidarité avec la paysannerie des Andes boliviennes, très précisément. Michel, on a parlé du bien vivre, tu vas en parler sur le plan culturel.
Oui, ça c'est une dimension aussi qui me paraît fondamentale. Qu'est-ce qu'on peut observer, pas seulement en Bolivie, mais en Corrèze où j'habite? Je suis allé au Vietnam, c'est pareil, dans la plupart des pays du monde, qu'est-ce qui se passe avec les systèmes capitalistes? Les cultures traditionnelles disparaissent. Toutes ces richesses culturelles...
De la biodiversité?
Oui, de la biodiversité, mais surtout, ces richesses culturelles au plan musical, au plan vestimentaire, au plan de l'artisanat, tout ça est en train de disparaître. Je prends un exemple. En Bolivie, en 1979, je suis allé sur un événement culturel important en Bolivie, ça s'appelle le Porcliae, dans un patelin qui s'appelle Tarabuco. Je dirais qu'à peu près 30% de la population était en costume traditionnel. Aujourd'hui, comme ça, à vue de nez, entre 5 et 10%. Je pense que si j'y retourne, je ne pourrais pas y retourner dans 30 ans, je ne serai plus là. Mais si quelqu'un y retourne dans 30 ans...
Il n'y aura plus personne.
Non. Il y aura quelques personnes qui se battent pour maintenir l'artisanat, pour maintenir la musique. Mais la culture authentique...
Elle aura disparu.
Elle aura disparu. Je prends encore un exemple pour que les auditeurs comprennent bien ce qui se passe dans la tête des gens avec la culture dominante. Un jour, il y avait une paysanne qui était à côté de moi et on écoutait donc un groupe donc de musiciens qui jouaient ce qu'on appelle en Bolivie les sicuris, donc la flûte de pan. Et je dis à la paysanne, mais pourquoi on n'entend plus ça? Pourquoi il n'y a plus, ça n'existe plus dans les campagnes? Et ce qu'elle me répond, on a honte. La culture dominante fait que les paysans ont honte de leur culture, ont honte de leur identité. C'est pour ça que...
Elle disparaît, petit à petit.
Elle disparaît petit à petit. Et que, par exemple, sur le plan des habits, les paysans adoptent des vêtements à l'occidental. Tu as dû le lire dans mon journal.
Tout à fait.
Ils mettent des t-shirts où c'est écrit en anglais, à la gloire d'un musicien nord-américain. Bon, tout ça, ça peut paraître innocent, mais la culture américaine, de façon insidieuse, s'immisce dans la vie quotidienne des paysans. Le Coca-Cola, ben, quand j'étais en Bolivie, il y a 50 ans, il n'y a pas de Coca-Cola. Maintenant, Myriama, un paysan m'invite chez lui. Je rentre chez lui. Tu sais ce qu'il me propose à boire ?
Du Coca-Cola.
Du Coca-Cola.
Eh oui.
Et je me permets, donc je ne vais pas lui refuser son Coca-Cola. Moi, je ne bois jamais de Coca-Cola. Mais je ne lui refuse pas son Coca-Cola. Mais je lui explique ce que c'est que Coca-Cola. Hein ? Tu vois, comment, sur le plan culturel, le monde, l'impérialisme américain, mais aussi chinois aujourd'hui, enfin tous les impérialismes économiques, culturels, politiques, s'immiscent dans les consciences populaires. Hein. Et en Bolivie, c'est vraiment une catastrophe, même s'il y a quand même beaucoup de Boliviens qui résistent. Il y a beaucoup de communautés qui résistent, qui ont pris conscience de ça et qui résistent à leur façon. Mais je dirais que c'est quand même quelque chose de, pour moi, dramatique.
Donc, d'où l'intérêt du bien de vivre.
D'où l'intérêt du bien de vivre.
Voilà.
Mais, si je peux rajouter quelque chose.
Oui, bien donc, sûr, Michel.
Myriama. Donc, ce concept du bien de vivre, tu entends que nous sommes sur une voie raisonnable, de bon sens, qui permet la dignité donc, des paysans, qui permet donc que la planète ne souffre pas de tout ce que propose le système capitaliste, qui permet que humainement les gens se respectent, les gens construisent ensemble. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Mais les forces contraires sont terribles.
Elles sont puissantes.
Elles sont puissantes. Elles sont puissantes en Bolivie, mais elles sont puissantes chez nous aussi.
Tout à fait.
Elles sont puissantes partout. Partout. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que le paysan, malheureusement, a toujours tendance à raisonner en fonction de ses intérêts. Et de ses intérêts souvent immédiats. On réfléchit pas à trop longtemps. Il faut vraiment un long processus, je dirais, pour reprendre le terme de Paulo Freire, de conscientisation, de réflexion, pour que le paysan se rende compte que... Ok, humainement, je vais faire attention à l'égard de ma femme, à l'égard de mes enfants, à l'égard de ma communauté. Je vais m'engager, je vais prendre conscience de ce que c'est que le bon vivre, je vais m'impliquer, je vais me mobiliser avec d'autres paysans pour le syndicat, pour l'autonomie du syndicat. Tout ça est un très long chemin. Tu entends que c'est pas facile. Donc, ça fait 12 ans qu'on est en Bolivie. Mais en 12 ans, je dirais que par rapport à la perspective d'inverser un modèle de société sur un territoire agricole, pas grand-chose n'a été fait encore. Même si on a semé des choses, il y a des paysans qui fonctionnent sur cette réflexion. Mais les forces contraires sont là. Et c'est pas facile d'aller à contre-courant.
Donc la formation humaine est très dure.
Ouais.
Et le problème, c'est qu'on ne peut pas changer la société sans changer l'humain.
Tout est à base de l'humain. Il y a nous, aujourd'hui, par exemple, on est en train de promouvoir dans ce qu'on appelle des micro-projets. Un micro-projet, donc, c'est par exemple une communauté. Je prends un exemple, un des derniers micro-projets qu'on a financé avec une association française. De 21 poulaillers dans une communauté, essentiellement avec des femmes. En France, ça peut paraître facile. Un micro-projet, bon, c'est une affaire de 7000 euros à peu près, où on va donc créer des poulaillers pour que les poules ne soient pas mangées par les animaux sauvages.
Oui.
Hein. Mais ce micro-projet, si on ne fait pas un travail de formation humaine à côté, il y a de bonnes chances qu'il capote. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un dans le groupe qui viendra semer la zizanie, qui ne fera pas les choses comme elles doivent être faites, qui ne viendra pas aux réunions, qui ne viendra pas se former, qui éventuellement laissera tomber pour d'autres intérêts. Et donc la formation humaine, elle est fondamentale. Hein. Je répète, sur un système de valeurs, Et je m'engage, parce qu'en Bolivie, une des calamités, es la falta de cumplimiento. C'est le manque de respect à ses engagements. Ouais, je vais faire ça, ok. Il ne faut pas. Mais en Bolivie, c'est terrible, c'est une plaie, ça. Et là, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut qu'il y ait une prise de conscience pour que les choses se fassent correctement.
Je crois que c'est un peu partout pareil.
C'est un peu partout. Mais en Bolivie, par exemple, ce manque de respect de ses engagements, c'est une calamité.
Et oh, je pourrais dire, chez nous aussi.
Chez nous aussi. Mais Mariama, pourquoi il y a ça? Parce que ils ont toujours eu des mauvais modèles.
Oui.
Et le modèle, Mariama, c'est ce qui fait changer une société. C'est pas les discours politiques. Les paysans, ils en écoutent des discours. Non. C'est le gars qui est au pouvoir, comment il se comporte.
C'est la réalité du terrain, en fait.
Ouais. La réalité du terrain et le modèle aussi. Donc le modèle du buen vivir, le modèle du dirigeant du syndicat, parce qu'il y a malheureusement des mauvais modèles. Le mauvais modèle père de famille, le mauvais modèle mère de famille. Hein, parce que c'est ça qui fait changer une société. Souvent, moi, je fais référence des fois à Krishnamurti, mais un changement de société ne peut pas se faire sans changement humain. Et d'ailleurs, même Gramsci, je fais une référence là aussi à Gramsci.
Gramsci, ça me va.
Oui, mais d'abord dans les consciences. S'il y a une prise de conscience et les gens ont une vision par rapport au buen vivir, par rapport au modèle de société, comment doit s'organiser une société. Ah, ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Pour faire évoluer un territoire. Hein. L'humain, d'abord.
Oui. Et on entraîne tout le monde. Et on fait la révolution.
Oui. La révolution, moi, je ne crois plus à ce mot.
Oui, enfin, dans la révolution, dans les mœurs, dans
les mentalités.
Dans la mentalité, dans tout le reste. Alors, je rappelle, Michel, le site internet où on a toutes les informations sur ton travail, enfin, sur votre travail, ton épouse et toi, c'est horizon, au pluriel, 19.com.
Il faut coller le 19 à Horizon 19.
Hein. Oui, voilà. Oui, il ne faut pas que j'oublie de le dire. Oui. Et surtout, il y a une vidéo qui s'appelle « Changer le monde sans prendre le pouvoir, solution locale dans un désordre global », qui est sur YouTube. Alors, c'est Google, YouTube, mais bon, on fait avec les éléments qu'on a. Hein. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que à un moment donné, tu montres tous les petits paysans, et tu n'oublies pas de citer Macno, qui était un petit paysan aussi.
Ah oui, c'est vrai. Merci d'avoir identifié ça.
Ah, mais je l'ai identifié, ça fait chaud au cœur.
Parce que le régime communiste, à l'égard des paysans, il n'a pas été tendre.
Hein. Tout à fait, et ça te le dit bien. Ouais. Il a affamé les petits paysans.
Terrible, des millions de morts.
Hein. Tout à fait. Ouais. En Ukraine, particulièrement, l'Holodomor, c'est une tragédie qu'il commémore chaque année, et on a vu le président Zelensky commémorer l'Holodomor avec beaucoup de dirigeants qui ont fait le déplacement. Mmh. Voilà. Donc.
Absolument.
Voilà. Donc, un dernier mot, Michel, avant qu'on ne rende l'antenne.
Oui. Donc, ce que j'aurais envie de dire, maintenant, parce qu'il y a quand même, aujourd'hui encore des jeunes qui envisagent donc d'aller travailler sur le terrain. Moi, ça me semble important de vivre aux côtés des couches populaires. Parce que il y a beaucoup d'ONG, hein, mais que je regarde les ONG françaises ou les ONG boliviennes, toutes ont leur siège en ville, se déplacent avec des bagnoles.
Oui, tout à fait.
Doivent payer donc des locaux. Mm-hmm. Non, il faut aller vivre aux côtés des paysans, dans les communautés, simplement. Ça ne coûte rien. Nous, on n'a pas de voiture dans le centre de formation. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué. Mais si on veut changer le monde, il y a beaucoup de gens qui veulent changer le monde. Mais il y a une petite phrase qui dit « Beaucoup de gens veulent changer le monde, mais il n'y en a pas beaucoup pour descendre les poubelles. »
Oui, exact. Hein? Exact.
Donc si on veut faire des choses, il faut aller. Et au contact des paysans, je pense là, les chemins s'ouvrent, la réalité nous dit ce qu'il faut faire. Et avec les gens, bien sûr, toujours avec. Pas pour, parce que nous, les politiciens, ils disent, ouais, on va faire ça pour vous. Non, avec. Donc, participation paysanne, fondamentale.
Merci, Michel. Alors, merci à Nicolas et à Jean-Michel pour la technique. Donc, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous, surtout par les temps qui courent. Oui. Merci beaucoup.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues, j'ai perdu mes dents, sur vos roues, j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interroger les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement, j'ignorais le tas. La rage, je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire. J'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. La rage, ben, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, la voix pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'à ma ribin. J'étais blessé chez mon voisin. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue, c'est sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. La rage.
La rage. Qu'as-tu fait au toit, toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Thank you. reçus.